Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Afriat.
Bonjour à nos auditeurs de Radio JM. Bonjour Rav Yona Ashrof. Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir au moins par le téléphone, par le son, parce qu'il y a quelques mois qu'on ne s'est pas vu depuis que vous êtes reparti en Israël. Et alors, c'était juste pour vous demander en même temps quel est votre rôle là-bas avant. Évidemment, vous étiez le délégué de l'agent juive ici à Marseille. Et maintenant,
j'avais repris ma fonction d'enseignant dans les écoles. Bon, on a toujours des projets toujours à côté qu'on fait, et ça avec la France et tout ça. Bon, c'est un peu plus difficile avec la guerre dans ces temps-là qu'on vit en Israël. Il y a surtout ma femme qui va maintenant un peu plus aider justement les francophones avec l'Alia, parce qu'elle va commencer à travailler. Elle a commencé il y a quelques semaines. Elle travaille avec le ministère de l'Alia d'Akita, donc c'est le ministère de l'Alia en Israël. Donc elle aura vraiment plein de projets avec la France. On essaie de garder le contact aussi avec vous.
Très bien. Vous êtes près de Jérusalem toujours?
C'est un plaisir de vous entendre, de revenir un petit peu aussi d'être parmi vous, de garder ce contact qu'on a eu avec Marseille. Donc, on a passé quand même 2 ans là-bas.
Et oui.
Et toujours des liens, toujours on garde justement ce lien qu'on a eu. Voilà.
Eh bien, c'est bien comme ça. Ça nous permettra d'avoir des informations directes et des commentaires venus directement d'Israël. Ça fait plaisir. Oui. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Tazria. Elle est en rapport avec la Haftara qui est dans le livre des Rois et qui est du prophète Élisée. Élisée qui va nous raconter, un fait. Qu'il a réalisé avec le général Naaman. Alors, entre parenthèses, ce prophète Élisée, c'était l'élève du prophète Élie. Donc, c'était son élève. Et il a perdu, en quelque sorte, son maître, le prophète Élie, le prophète Élisée, en marchant un beau jour, il marche. Et puis, il y a le prophète Élie qui part au ciel dans un char céleste. Et c'est comme ça que le prophète Élie est décédé, et à la grande surprise évidemment du prophète Élisée. Et donc c'est le prophète Élisée qui prend sa suite, il a été formé pour cela.
On dit que même, qu'il a été même plus grand que ses prophéties, et c'est son roi, on vient de son roi Kodesh, donc ses prophéties, c'est son esprit, était même plus haut, il était le double du prophète Élie. Parce qu'en fait, quand Élie a dit « si tu vas me voir, monte au ciel justement dans ce char céleste », donc, ça veut dire que t'as un degré de prophétie très haut aussi. Il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de miracles, autant même plus que son maître. Donc, c'est vraiment, il a atteint un degré de. Si on connaît comme Élie, comme vraiment un très grand prophète, donc Élisée aussi, Élisha aussi, c'est un très, très grand prophète.
Oui, donc beaucoup de miracles. Alors, on connaît en particulier celui avec une femme qui était qui avait des soucis financiers, des créances, et il va la sauver de ses créances. Et après, il est connu bien sûr pour une résurrection du fils de la Shulamite, une dame. Alors il va aider évidemment au fait par les prières, au fait qu'elle ait un enfant. Puis après cet enfant était sur le point de décéder, puis il y a cette résurrection qu'il va faire de son fils. Ça, c'est toujours des œuvres de ce prophète Élisha. Et puis là, on va voir une dernière œuvre, c'est donner du pain à des individus qui sont affamés, et en fait la quantité de pain qu'il leur procure suffit, alors que c'est pas une grosse quantité, ça suffit pour montrer qu'évidemment c'est là le côté miraculeux du fait qu'une petite quantité de pain peut suffire à de nombreuses personnes. Et ensuite, dans cette Haftara, on va nous parler de cette fameuse guérison grâce au prophète Élisha, évidemment grâce à Dieu, du général Naaman, qui est un général d'origine syrienne, d'Aram, et qui avait été atteint par la lèpre. La lèpre, c'est pas une lèpre sur le plan médical, c'était une lèpre qui se voyait effectivement sur le plan physique, mais qui correspondait à une faute morale, plutôt, puisque les commentateurs nous disent, en rapport avec la paracha de Tazria, que c'était la médisance qui pouvait causer cette maladie, donc plutôt morale, mais qui avait évidemment une traduction sur le physique, ou la médisance, ou l'orgueil. Alors, ce général Naaman contacte le prophète Elisha parce qu'il avait une servante juive qui était à son service, et cette servante, quand elle le voit dans cet état, lui dit: nous avons un prophète en Israël, c'est le prophète Elisha. Et donc le général demande au roi d'Aram de contacter ce prophète, et il le fait par l'intermédiaire du roi d'Israël. Et ensuite, donc, il contacte ce prophète Élisée, et en fait, il se rend à son domicile, mais se rendant à son domicile, le prophète Élisée ne le voit pas directement. Il lui envoie son serviteur. Alors le général est un peu déçu de cet accueil. Il pense que il a fait beaucoup de kilomètres pensant pour voir directement le prophète, et là il voit le serviteur, mais le serviteur lui donne des conseils. Il lui dit: écoute, voilà ce qu'il faut faire pour votre guérison de cette lèpre. Il faut se tremper 7 fois dans le Jourdain et vous serez guéri de la lèpre. Alors au début, le général est un peu surpris de cette thérapeutique, de ce remède, et il se dit: mais moi, dans mon pays, il y a d'autres fleuves, il n'y a pas besoin du Jourdain, et il y a d'autres fleuves dans lesquels je peux me tremper. Je ne vois pas en quoi le fait de se tremper 7 fois, ça va me guérir. Et sur la recommandation des gens qui l'accompagnaient, de ses serviteurs, de son entourage, qui le pousse malgré tout, il lui dit: écoutez, mon général, c'est pas parce que ça ne vous coûte rien de faire des bains dans l'eau, et si ça peut vous guérir, c'est formidable. Bon, finalement, il se résout à faire ça, il se trempe 7 fois, comme le prophète lui a dit, dans le Jourdain. Effectivement, il en ressort guéri, et alors d'un coup, il devient très reconnaissant, non seulement évidemment envers le prophète, il reconnaît le Dieu d'Israël comme le Dieu unique. Et c'est ça ce que nous relate cette haftara. Alors je crois que Rav Yona, vous avez
précisé aussi dans les détails, vous avez très bien résumé la parasha. Il ressort du fleuve, non seulement qu'il n'avait plus d'épreuve, mais sa peau est revenue douce comme une peau d'enfant. Et c'est vraiment pas juste il a enlevé ce qui a été avant. Il y a eu, si vous voulez, une sorte de réparation vraiment profonde. Donc sa peau était vraiment devenue comme un enfant, comme un bébé, avant fauter, avant tout, quoi. C'est aussi un point important aussi.
Oui, et en ce qui concerne la Syrie, je crois que vous avez des éléments entre la Syrie et Israël. Pourquoi c'était un général syrien, arabe?
Alors, on a un petit peu... comment dire en français déjà? Parler de quelques points justement sur ce détail, sur ce que vous avez résumé.
Oui.
C'est tout d'abord en fait quelle est la relation entre Israël et Aram. Aram aujourd'hui, ça correspond à la Syrie. Donc, il y avait toujours la capitale aussi de Damas qui était Aram. Quelle était leur relation et pourquoi ils veulent envoyer en Israël? Qu'est-ce qui s'est passé avant? En fait, pour comprendre un petit peu bien cette affaire, il faut comprendre aussi que avant ça. Donc, il y a eu une guerre entre Israël et Aram. C'est la guerre justement au moment du roi de Aram en français, où l'Aram, donc les Syriens, ont gagné cette guerre. Et Aram a été tué, il s'est même déguisé, parce qu'on a dit qu'il a été tué par l'ennemi, il s'est déguisé en tant que un militaire simple, pas en tant que roi, parce qu'on a dit qu'on allait l'attraper. Et c'est vraiment, il y a une grosse guerre qui a eu. Et on peut se poser la question en fait tout de suite. C'est un pays en guerre. Il y a un conflit entre Israël et la Syrie. Maintenant, ils ont un problème. Ils ont un problème d'ordre, on va dire un peu d'ordre un peu plus éthique, spirituel. Ils voient que, comme vous avez dit vous-même, que le lèpre, à l'époque, c'est pas juste une maladie de la peau, c'est aussi, ça rappelle justement l'ordre moral, l'ordre... une éthique, quelque chose de plus comme ça, un peu plus spirituel. Et donc, vers qui ils vont se tourner, ils se tournent vers Israël. Et comme vous avez dit au début, c'est pas lui-même. C'est-à-dire que Naaman, lui, ne voulait pas justement se tourner vers Israël, c'est leur ennemi. comment je vais aller là-bas, comment je vais leur demander. Même Israël, le roi d'Israël qui était à l'époque, c'était le roi de Joash, en français, je ne sais pas comment on dit en français, le roi de Joash, c'était notre critère. Lui, il n'a pas vraiment accepté justement cette demande d'aller voir le prophète, parce que c'était un roi idolâtre. Et pour lui, c'était que tu vas voir le prophète, c'est pas... parce que moi-même, je ne vais pas le voir.
Oui.
Donc, quand on lui ressent, parce qu'au début, ils ne sont pas passés directement vers le prophète, ils sont passés chez le roi. Si vous voulez, là, cette mishlachat, ces envoyés qui ont été envoyés de Syrie en Israël, sont allés d'abord chez le roi d'Israël. Et donc le roi, quand il a fini ce truc, il a dit... qu'est-ce qu'ils veulent, je ne suis pas un magicien, il n'y a pas ça chez nous. Je n'ai pas de quoi leur apporter quelque chose dans ce domaine. Et justement, je pense que c'est ça, justement, le point de ce qu'on apprend de cette Haftara. C'est que, voilà, même après une guerre, on peut garder toujours, en fait, si vous voulez, le rôle d'Israël comme un repère, si vous voulez, pour l'éthique et pour la morale. Donc voilà, on a perdu, ils sont en conflit contre nous, en tant que territoire et guerre, tout ça, on s'entend pas du tout. Mais on peut toujours se tourner vers nous pour justement pour l'éthique, pour la morale. Et c'est un petit peu, ça monte un petit peu, si vous voulez, le Nitzachon. Le Nitzachon en français, c'est la victoire. Et souvent, on parle justement du conflit qu'on est en ce moment avec les Gazaouis, avec donc, la guerre qu'on fait dans le nord, dans le sud, enfin, 30 dans le nord. Et on parle tout le temps de. Quand est-ce qu'on va gagner? C'est souvent la question en Israël, c'est qu'est-ce qu'appelait le Nitzachon? Quand est-ce que la guerre va se finir? Et bien, ça va être rappelé qu'on a gagné cette guerre. Alors, il y en a qui vont dire quand on aura la tête de Tinoir. Il y en a qui vont dire quand on va conquérir tout le territoire de Gaza et avoir une autorité au moins au minimum que l'armée se trouve là-bas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Et une des choses qu'on peut apprendre justement de ça de Nitzachon, le Nitzachon c'est la victoire, c'est Nitzachon en hébreu, si vous voulez, c'est du mot le Netzach.
Netzach, la réussite.
Netzach, c'est éternel.
Ah,
oui, ok, éternel, c'est en fait, si vous voulez, c'est faire perpétuer quelque chose, commémorer, faire le faire soit, de le rendre éternel. Et on peut perdre une guerre, on peut perdre en fait une guerre. C'est une défaite, c'est pas la guerre entière, c'est vraiment, comme on dit en français, on perd pas la guerre, mais on perd une bataille.
Une bataille.
On a perdu une bataille, si vous voulez. Mais si toujours notre rôle d'Israël, le rôle d'Israël en tant que Migdal Or, donc en tant que repère, en tant que...
Repère moral,
exactement. Et alors on garde notre rôle, et sur ça, c'est une sorte de Nitzachon. C'est-à-dire on a perdu quelque chose, on a perdu la guerre, on a perdu un peu de terre, des choses comme ça, mais on a ce rôle au minimum, ce rôle moral, et sur ça qu'on gagne. C'est pour ça aussi que il va venir en Israël là-bas. C'est vraiment, si vous voulez, c'est comme si je vous dis maintenant que Sinoir va entrer en Israël pour se faire guérir. Il m'a dit qu'il n'y a que des médecins israéliens qui peuvent le guérir, moi le famille. c'est absurde. Pourquoi Naaman va rentrer en Israël, qui est un pays en conflit avec Israël, donc avec la Syrie, avec Aram, et on va l'aider? C'est pas justement, parce que le Nitzachon, c'est pas juste avoir sa tête. C'est pas juste, voilà, on l'a éliminé. C'est aussi montrer c'est quoi notre point, c'est quoi notre rôle, nous, le peuple d'Israël.
C'est un rôle éthique, effectivement, oui, vous avez tout à fait raison. Et évidemment, on comprend que quand le général, effectivement, Naaman, il vient en Israël pour se guérir, en fait, cette guérison, cette maladie, c'est pas une maladie réellement physique, c'est une maladie morale, puisque les commentateurs nous disent que ce général était pétri d'orgueil, et évidemment, comme j'étais le numéro un de l'armée de Syrie, et donc il fallait qu'il abaisse un peu son orgueil, qu'il redevienne un peu vers la modestie, qu'il se penche plus vers la modestie.
Exactement. Alors ça, c'est comme vous dites, c'est la thérapie.
C'est la thérapie, c'est la thérapie. Il fallait qu'il
c'est pour ça qu'il envoyait son Ahav, donc Gehazi, c'est son serviteur. Il a envoyé, donc il n'a pas lui-même. Lui, il a dit, tu fais donc, c'est moi le chef des armées, c'est moi qui ai gagné la guerre. J'ai l'habitude d'avoir ce kavod, donc cet honneur qu'on me donne d'habitude. Et là, ce qu'il va faire, il va rabaisser un petit peu son honneur. Il va dire, voilà, baisse la tête. Tu veux être guéri, justement, de cet orgueil, de cette qui t'a provoqué ce tsarat. Alors, enfin, voilà, il faut sortir de ça. Et il lui dit, voilà, le nard, comme il avait dit avant, vous allez au nard au Herben, vous allez au fleuve du Jourdain. Et il lui dit, ça change quoi, le fleuve du Jourdain? C'est un fleuve qui est encore plus propre, encore plus beau, encore plus beau et vraiment clair et très belle dans les eaux où je suis en Syrie. Et une des explications, le Herben en hébreu, mais la chambre des raides. La raide en hébreu, c'est descendre, abaisser. En fait, il lui dit, voilà, tu vas au Yarden, tu vas t'abaisser. D'abord, tu vas m'écouter. Donc, il y a cette thérapie, en fait, que fait Élisée, d'abaisser, en fait, d'abaisser le Naaman, pour lui montrer, voilà, c'est ça, donc, cette thérapie-là. Et c'est comme ça que tu vas te guérir. Donc, ça a mis du temps, il n'a pas voulu tout de suite. C'est que l'entourage de Naaman, lui a dit, bon, écoute quand même mon avis, je perds rien à le faire. À la fin, il y a eu cette soumission qu'a eu Naaman, et c'est comme ça qu'elle était guérie. Donc, on voit bien là, voilà, c'est une thérapie un peu spirituelle,
spirituelle, oui.
Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, sur ça, le prophète a fait son devoir, a fait son rôle.
Oui.
Et voilà, c'est important de le savoir.
Oui, alors effectivement, dans le texte, on voit que non seulement, bon, évidemment, Naaman guérit, mais il est reconnaissant, et cette thérapie lui permet de reconnaître que c'est Dieu, l'être suprême qui l'a guéri, parce qu'il dit ça, c'est dans le verset 15 de notre Haftara, il dit Vayashov el ish Elohim u vechol machaneu vayavo vayamod lefana vayomer inena yadati ki en Elohim bechol ares ki im beisrael veata kahna beracham et avdecha. Je traduis comme ça. Il s'en retourna chez l'homme de Dieu avec toute sa suite. Arrivé, il se présenta humblement devant lui et dit « Ah, certes, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, de grâce, accepte un présent de ton serviteur. » Bon. Alors, non seulement il reconnaît Dieu, mais après il veut donner un cadeau au prophète Élisée, mais le prophète Élisée va le refuser, et en fait c'est son serviteur qui va l'accepter.
Ça, c'est pas dans la salle, c'est la suite.
C'est
le serviteur d'Élisée qui va recevoir en douce, sans l'accord. Et du coup, il va lui recevoir la lettre qu'avait Naaman, la lettre qui était sur Naaman va retomber sur lui. Et Elisha, le prophète Élisée, l'a reçu, et a deviné en fait ce qui s'était passé. Et donc, bien sûr, il l'a réprimandé, parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas, en fait, c'est vraiment ça, se relie à ce qu'on a dit avant. Parce que nous, voilà, on a fait notre rôle en tant que repère moral, repère éthique. Et toi, tu vas ça comme soutirer des intérêts, donc, et des biens et des cadeaux. Et donc, c'est pas notre rôle.
C'est pas notre rôle
en tant qu'Israël.
Oui.
J'aimerais, déjà, on a parlé un petit peu, justement, de Syrie et de guerre et d'un peu les guerres qu'on vit en ce moment en Israël. C'est que, si vous voulez, souvent c'est les nations autour de nous qui vont nous rappeler un petit peu notre rôle. Et souvent on oublie un petit peu, en tant qu'on est revenu en Israël, on a toute cette période de retour en Israël. Et souvent, bon, on va être un petit peu comme les autres nations, on va être aussi vraiment dans le développement dans tous les domaines, que ce soit dans l'high-tech et dans le commercial et dans tout ça, donc on va développer beaucoup de choses. Il ne pas oublier, c'est important, il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ne pas oublier aussi la chose la plus importante, c'est que on est une nation, mais notre nation, justement, c'est la nation qui est le peuple de Shem, et qui, justement, amène la parole de Shem dans ce monde, et que le plus important, c'est de ne pas l'oublier, c'est ça, et souvent, on peut l'oublier en temps normal, et la guerre vient nous rappeler, justement, cette chose-là. La guerre vient nous rappeler cette chose-là, et justement, ce qui se passe en Israël, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Depuis le début de la guerre, il y a vraiment beaucoup plus d'unité, beaucoup plus d'ardoute.
Qui manquait,
dans
qui manquait
le peuple. Beaucoup plus l'identité juive revient. Et vraiment, c'est tout ce que j'ai parlé avec vous, c'était quelqu'un d'autre de la communauté, j'ai eu le téléphone il n'y a pas très longtemps. On parlait que les gens se réveillent et sont vraiment à l'identité.
Oui.
On est là pourquoi en fait?
Oui.
On est en guerre, mais pourquoi on est en guerre? On peut partir. Il y a eu des personnes, malheureusement, ils n'ont pas compris cette chose-là, ce message-là. Et donc, du coup, bon, si c'est pour être ici en guerre avec les extrémistes des deux côtés, ils appellent ça des deux côtés, mais du côté donc arabe et du côté juif, alors on peut habiter ailleurs. Mais si on est là, justement, en temps, on a ce rôle-là à faire.
Oui, bien sûr, le père moral.
Cette guerre va nous rappeler. Et pareil que Naaman, donc voilà. Il vient chez nous et ça nous rappelle, ah, c'est chez nous. Qu'est-ce qu'il dit le peuple, voilà, je suis une certaine, qu'est-ce qu'il dit le roi Yoach au début, mais moi j'ai rien à te donner. Parce que justement, il a oublié, il était idolâtre, il a oublié c'était quoi son rôle. Et là vient justement le prophète Élisée, il nous rappelle que, quel est notre rôle en tant que peuple d'Israël sur cette terre.
Bien sûr. Et alors, pour une dernière chose que j'ai lue là, aujourd'hui dans le calendrier Joseph Bloch, on nous dit que Néga qui l'appelait, et Tsarat qui est la lèpre, la plaie de la lèpre, quand on inverse ces lettres, et Néga ça fait Oneg, et Tsarat ça fait Atseret. Alors on dit qu'il y a deux façons de voir les choses. Si on voit la société comme perdue, qui est atteinte de plaies de la lèpre, atteinte de plaies de la lèpre, on voit mal les choses. Par contre, à l'inverse, si on inverse les mots, on fait Oneg, on voit un délice. En fait, et à ce moment-là, évidemment, ça inverse les choses. On voit les choses de façon beaucoup plus positive et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ah, je vous remercie beaucoup, Rav Ashrov, parce que le temps de notre émission, je crois, est pratiquement terminé. Et de beaucoup de vos enseignements qu'on espère retrouver, puisque vous étiez avec nous pendant des mois, ici à Marseille. Et donc, merci beaucoup pour ces enseignements avec l'actualité que vous nous avez mis dans la pleine... Voilà. Actualité, et à bientôt à nos auditeurs, et merci à Amy à la technique. Au revoir.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Afriat.